Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 3 de notre série qui concerne le pardon. Oui, nous devons apprendre à pardonner, mais en plus, pardonner, c'est la première étape. Ensuite, nous devons apprendre à oublier. Ça, c'est très difficile pour certains. Jésus leur a dit « Ayez foi en Dieu ». Et il parle de la montagne qu'il faudrait pouvoir enlever. C'est une métaphore, on le comprend bien. C'est pour nous expliquer que nous avons dans la vie des tas de choses qui semblent impossibles de pouvoir les enlever de nous, de les déplacer et surtout de les oublier. Notez Saint Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Alors on s'agite de ces versets. Or les versets nous parlent de ce que nous pouvons obtenir de Dieu, de ce que Dieu peut faire pour nous et de la manière dans laquelle nous pouvons employer notre foi pour recevoir. Presque tout le monde cesse à lire quand ils lisent Saint Marc chapitre 11 verset 24. Ils ne continuent pas la lecture, mais voyez-vous ce discours que le maître commença dans le verset 22 en décrivant ce que j'appelle la foi de la possibilité, elle ne finit pas avec le verset 24. Dans les versets suivants, Jésus fait deux déclarations en plus qui sont, on peut dire, de façon vitale pour la foi. La première, elle se trouve dans le verset 25. Saint Marc, chapitre 11, verset 25. Il est dit que lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, alors pardonnez, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Non, il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Surtout, écoutez la suite, si vous ne pardonnez pas. Par contre, il vous pardonnera si vous pardonnez. Est-ce que, je vous pose une question, beaucoup de chrétiens même pensent que c'est à Dieu de faire le premier pas. Mais pas du tout. Est-ce qu'il est notre boy? Ah non! Arrêtons avec tes pensées de ce genre. Voyez-vous, Jésus lit cette pensée que nous venons d'avoir du verset 24 avec une conjonction. Il y a quelque chose que nous devons apprendre à comprendre. Si on l'avait préparé correctement, et là, il y a plus de 100 ans, on aurait écrit ce passage un peu différemment. Par exemple, il n'y aurait pas eu simplement des points dans certaines versions après s'accomplir dans le verset 24. Mais il y aurait une virgule et puis le mot « et ». Pour joindre les deux pensées. Ces deux versets étaient destinés pour se rapporter l'un à l'autre. Je prends évidemment la version allemande parce que je suis de langue allemande, mais ça ne change rien. Chers amis, la plupart des gens cessent à lire à la fin du verset 24 et il s'agit de recevoir les choses qu'elles désirent. Ils sont donc étonnés de ne pas les recevoir. Trop de chrétiens, eh bien, habitent ce genre de monde qui serait un monde un peu virtuel, un monde hurra, au lieu du monde réel. On a la peine, parfois, à comprendre que nous sommes dans un monde terrible, surtout de nos jours. Quelle horreur! Les croyants doivent revenir à la réalité pour mettre quelque chose en train pour eux-mêmes et pour le reste du royaume. Remarquez, dans le verset 25, que le Père dit que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous l'offensons, oui, nous attristons notre Sauveur et Seigneur. Cela est très sérieux. Lorsqu'on étudie les traductions variées, on peut comprendre qu'il faut pardonner afin que le Père peut aussi pardonner nos offenses à nous. En effet, c'est un péché de tenir des ressentiments contre des gens. On dit « bon, bien, je veux bien pardonner, mais attention, hein, je ne l'oublierai jamais ». Jamais j'oublierai ce qu'ils m'ont fait ou ce qu'il m'a fait. Mais entre nous, soyons honnêtes, cela n'est pas de pardonner du tout. Ce n'est pas un pardon, ça. Dire « je ne l'oublierai jamais ce qu'on m'a fait », mais c'est pas, soyons sincères, ce n'est pas pardonner du tout. Il y a une fois, j'ai entendu dire un homme, je comprends qu'il me faut pardonner pour que Dieu réponde à mes besoins. Je vous le dis, je vais les pardonner. Mais attention, comprenez-moi bien, je ne l'oublierai jamais ce qu'ils m'ont fait. Eh bien, j'aimerais vous demander sincèrement, humblement. Il faut laisser tomber tout votre compréhension au sujet du non-pardon. Le non-pardon, c'est quelque chose de terrible et ça peut vous revenir comme un boomerang contre vous. Non, le non-pardon, il ne faut pas que ça existe en vous. Oubliez n'importe quoi que l'on vous a fait. Oubliez. La Sainte Bible amplifiée, elle dit ceci. Et toutes les fois que vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui ou pardonnez à elle et laissez tomber. Laissez tomber. Oubliez tout. Totalement. Surtout, n'oubliez pas seulement partiellement. J'espère qu'on se comprend, n'est-ce pas? Quand même. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il m'a fait. C'est ce que vous dites. Si vous saviez ce qu'on m'a fait. Et là, il y en a qui protestent. Et ce qu'ils vous ont, par exemple, tué. Je vous le demande. Est-ce qu'ils vous ont peut-être même crucifié? Mais Jésus dit, et il l'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque on vous décrit d'une manière que vous n'aimez pas, vous dites, je ne leur permettrai pas de me faire accepter cela. Je ne leur permettrai pas de me faire souffrir. Ils ne se moqueront pas de moi et ils s'en tireront pas à bon compte. Moi, je veux leur faire voir de quel pain je mange. Mais, chers amis, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et de l'autre côté de votre façon de dire, eh bien, Dieu merci, j'ai confiance, dites surtout cela. Dites Dieu merci, j'ai confiance que Dieu répondra à tous mes besoins si je suis capable, si je peux être assez humble, enlever mon orgueil épouvantable pour pardonner. Comment est-ce que Dieu peut répondre à vos besoins lorsque vous ne vous alignez pas avec la sainte parole de Dieu? Regardez ce qu'il dit, par exemple, dans le verset 26, Saint Marc, chapitre 11, verset 26. Il est dit, « Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est clair et net. Je le répète, n'est-ce pas, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai. Le Seigneur ici ne parle pas aux pécheurs, pas du tout. Que croyez-vous? Mais il parle aux croyants. Il parle à ceux qui ont la foi semblable à Dieu. Seulement ceux qui ont été nés une deuxième fois, ça veut dire être né de nouveau, ça veut dire aussi être né spirituellement. Ils ont reçu la foi semblable à Dieu. Chaque croyant en a une mesure. Chaque croyant peut la faire grandir par la nourriture de la sainte parole de Dieu. Ce genre de foi qui est semblable à Dieu et du cœur, et ce genre de foi ne vient pas de la tête seulement, mais il vient du plus profond de nos sentiments vrais, profonds, de Christ. Mais cela ne marchera pas où il n'y a pas l'impardon, là où on ne pardonne pas. Vous ne pouvez pas prétendre de recevoir des bénédictions, voyons. Non, non, non. Nous n'aimons pas entendre enseigner les choses comme ça. Voyez-vous, nous voulons vivre de notre manière à nous et nous aimerions nous réjouir de tout à notre manière. Nous ne voulons pas nous aligner avec la vérité absolue de la sainte parole de Dieu. L'apôtre Paul, il prévient dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 que le jour viendrait où les gens se donneraient des enseignements et surtout où ils accepteront des enseignants, c'est-à-dire des leaders religieux, des pasteurs, des curés, des prêtres, qui enseignent surtout ce qu'ils voudraient entendre, eux, les gens, car ils refusent d'entendre la stricte vérité. Je connais des gens qui sortiraient de l'Église si le prédicateur s'élèverait en disant des choses qui ne leur plaisent pas. S'il commençait à enseigner au sujet du pardon, oh là là, ça va graisser des dents. Il dirait, pour l'amour de Dieu, je n'écouterai rien sauf l'amour de Dieu. Ils ne supporteront pas la juste doctrine. Se nourrir d'une seule partie de la sainte parole de Dieu, cela va vous faire du tort. Vous avez besoin d'un régime équilibré pour le spirituel et pour le domaine physique. Lorsque j'étais petit à l'école, nos institutrices nous montraient des tableaux de quelqu'un qui mangeait que des bonbons, des bonnes glaces colorées, surtout colorées, et des aliments sans aucune valeur nutritive. On est d'accord qu'au commencement, ils étaient aussi grands et aussi forts que les autres. Mais rapidement, ils déclinaient, ils dépérissaient. Nos institutrices essayent de nous enseigner que si nous ne mangeons qu'une sorte d'alimentation, nous deviendrons faibles. C'est la même chose quand on se nourrit de la sainte parole de Dieu. Si on ne mange pas un régime équilibré, on devient déséquilibré. Et savez-vous ce qui arrive aux gens déséquilibrés? La plupart du temps, ils s'emballent et nous aurions pu éviter beaucoup de problèmes et utiliser simplement une certaine logique. La Bible ne défend pas d'utiliser le simple bon sens. Chers amis, le pardon, c'est également un bon remède pour le cœur. Voyons cela de plus près. Attendez-vous d'être assez malade pour lui pardonner? C'est ce que j'ai demandé à quelqu'un. Il n'y a eu point de réponse. C'était une femme qui s'appelait Hélène. Hélène était assise là, les yeux fixés devant elle. Tout son être respirait la haine. C'était du reste écrit sur son visage, dans ses regards furibonds, dans ses traits tirés, dans ses mains tremblantes de tension. Elle ne pouvait dire le contraire. Oh non, elle haïssait et elle avait toute raison, semble-t-il, de haïr. Et c'était pas drôle du tout, vous pouvez me croire. Pendant des années, son mari, qui souffrait d'hyperaffectivité, avait accusé Hélène de le dominer. Elle avait souffert sans cesse des mauvais traitements de son mari, surtout en parole et en acte. Et pourtant, elle a choisi de rester avec lui. Elle ne pouvait le quitter. Pourquoi? Tout simplement parce que son Église n'approuvait pas du tout le divorce. Et elle en craignait les effets sur ses enfants. On la comprend. Or maintenant, les enfants ont grandi et la plupart ont même quitté le foyer. Tous ont été marqués par cet environnement familial destructeur. À la fin, elle fut même battue. Et cela a produit en elle, on peut comprendre, un ressentiment plus fort que la crainte du désaveu de son Église. Et elle a divorcé d'avec son mari. Hélène, elle vit maintenant seule. Elle souffre de dépression chronique. Elle ressasse les douleurs du passé. Elle rumine les injustices de la vie. Et forcément, elle est pleine d'amertume. C'est pourquoi elle a mis un bon moment avant de répondre à ma question, quand j'ai posé la question « Pourquoi elle devrait pardonner ?» et qu'elle a répondu « Mais pourquoi devrais-je lui pardonner. Oui, pourquoi le pardon est-il essentiel pour être en bonne santé? Voyez-vous, comme beaucoup de chrétiens, Hélène ne se rendait absolument pas compte de l'énorme impact que la haine de son ex-mari faisait peser sur son présent et sur son futur. En fait, si l'on me demandait d'identifier le symptôme le plus fréquent de paralysie qui affecte les gens qui souffrent de troubles affectifs, je dirais que c'est leur incapacité à pardonner ou à recevoir le pardon. Voyez-vous, ceux qui refusent de pardonner sont la plupart du temps amers et même colériques. Ils sont ravagés par leur amertume et leur colère, leur fureur. Mais la plupart du temps, ils ne s'en rendent même pas compte. Leur souffrance les aveugle quant à leur amertume. Pour bien des chrétiens, il est beaucoup plus facile de dire « je suis choqué » que de dire « je suis furieux ». Même quand vous les aidez à faire face à leur colère, ils sont portés à croire qu'elle constitue une défense légitime et voire même nécessaire pour ne plus être choqué à nouveau. Elle peut être un motif pour rester tranquille ou de les empêcher d'être en contact avec autrui et leur éviter d'être heurté à nouveau. Dans tous les cas, ils s'accrochent souvent désespérément à leur irritation. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Et ceux qui refusent de pardonner ruinent leur existence. La personne qui refuse de pardonner, elle donne en quelque sorte asile au ressentiment et recherche souvent la vengeance. Elle s'aveugle elle-même. Pardon, elle ne se rend pas compte qu'elle souffre davantage de son refus de pardonner que la personne à qui elle refuse son pardon. Voyez-vous ? Elle dépense toute son énergie mentale, à conserver ses souvenirs qui l'arrangent. Elle a besoin d'autant plus d'énergie que la dite personne réagit à ses ressentiments. Ses souvenirs négatifs constituent une menace pour celui qui les cultive, ou bien il les fraye, ou bien encore il l'excite à la colère. S'il est effrayé, il utilisera son énergie psychique pour se défendre. S'il est furieux, il mobilisera son énergie pour attaquer. Et c'est pour épargner aux croyants cet inutile gaspillage d'énergie et cette souffrance destructrice que l'apôtre Paul conseille que toute amertume, animosité, colère, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez de la compatissance. Soyez compatissants. Pardonnez-vous réciproquement. Et cela, comme Dieu, il vous a fait grâce par et en Jésus-Christ. Notez Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32. Alors, la question d'Hélène, pourquoi ai-je à lui pardonner? Cela nous montre qu'elle considère le pardon envers son mari comme étant un devoir injuste que Dieu lui demande parce qu'elle est son enfant. J'avais la responsabilité de l'aider à découvrir que par le pardon, elle pouvait mettre fin à son douloureux passé et qu'elle pouvait être libérée pour enfin bâtir un autre avenir. Comment Hélène peut-elle pardonner? Eh bien, c'est en suivant l'exemple de son Père céleste. La nature profonde de Dieu n'est jamais mieux révélée que dans sa capacité d'être tout amour et tout pardon. C'est ce qui fait de Saint Jean chapitre 3 verset 16 une vérité si extraordinaire. Rappelez-vous, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les mots « tant aimé » définissent la nature sans limite de son amour. Quiconque, cela révèle l'extension sans frontières de son pardon. Quand il dit quiconque, vous l'avez compris, ça révèle l'extension qui est incommensurable de son pardon. Dans la personne de Christ, Dieu démontre la possibilité divine qui est en l'homme d'expérimenter l'amour et de l'exprimer et d'exprimer enfin le pardon. Jésus a déployé cet ultime acte d'amour en donnant sa vie pour ses amis. Oui, il a regardé ceux qui le clouaient sur la croix et il a prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Luc 23, verset 34. De par l'amour du Christ, Hélène se sentait en sécurité. Elle a pu ainsi être libérée de toute la peur de son mari à travers l'amour de Jésus. Elle a pu abandonner sa colère envers lui. Lui pardonner n'était pas seulement une nécessité spirituelle, mais c'était aussi pour Hélène une façon de retrouver la santé. La dynamique de guérison du pardon, croyez-moi, c'est une réalité. De même qu'on doit ressentir l'amour avant de pouvoir l'exprimer, de même, il faut savoir ce que c'est que d'être pardonné avant de pouvoir pardonner soi-même. Aimer et pardonner sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il est difficile de pratiquer l'un et l'autre sans en faire l'expérience préalable. De même, il est difficile d'expérimenter l'un et l'autre sans les mettre en pratique tous les deux. Jésus observe cette relation entre amour et pardon dans sa conversation avec Simon le pharisien à propos de Marie de Magdala. Notez Saint Luc, chapitre 7, versets 41 à 43, ainsi que le verset 47. Le mot hébreu le plus utilisé pour exprimer le pardon et shalach, il signifie littéralement avoir un point ôté, avoir un fardeau qui est enlevé. Ce pardon soulage donc une personne du fardeau de son passé. Plus le fardeau est lourd et plus grand est le sentiment de soulagement et de relâche qui est ressenti quand on est pardonné. C'est tout à la fois la personne pardonnée et la personne pardonnante, qui bénéficient tous les deux de l'enlèvement du fardeau qui pesait sur tous les deux. En fait, c'est la personne qui pardonne qui ressent le plus grand bénéfice. Chers amis, comment la capacité de pardonner apporte-t-elle la guérison à la personne? Quand il y a pardon, nous voyons souvent la personne pardonnée recevoir le plus grand avantage. Et pourtant, c'est juste l'inverse qui est vrai. Cela ne devrait pas étonner celui qui étudie la Bible. L'Écriture sainte nous montre très clairement que l'énergie créative de Dieu n'est nullement frustrée par les offenses de l'homme envers lui. L'offense qui est faite à Dieu par nos péchés est totalement effacée par la mort de Christ au point qu'il peut dire à ceux qui acceptent son pardon, « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. » Jérémie chapitre 31, verset 34. La mort du Christ a complètement expié nos péchés, de sorte que Dieu nous traite comme si nous n'étions pas et plus coupables du tout. Jésus, notre Sauveur, a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, selon Romains, chapitre 4, verset 25, et chapitre 5, verset 1. Chacun de nous doit prendre sa propre décision d'accepter l'offre de Dieu, d'accepter son plein pardon en et par Jésus-Christ. L'amour éternel de Dieu, c'est la libre expression de sa grâce et ils ne sont affectés par aucun reproche à notre égard. L'homme de la peine, il a accepté le pardon de Dieu. Oui, il est tragique de voir des gens se souvenir des fautes passées et d'être traumatisés par un passé que Dieu a pardonné et sur lequel il a passé l'éponge. Heureusement, une personne qui a des difficultés pour accepter le plein pardon de Dieu a beaucoup de peine également pour pardonner aux autres. Quel dommage absolument inutile! L'énergie de ces personnes, elle se consume à se défendre contre la culpabilité du passé qui leur fait perdre le respect d'elles-mêmes. Voyez-vous l'irritation et le ressentiment qu'elles éprouvent vis-à-vis de ceux à qui elles ne peuvent pas pardonner épuisent encore beaucoup plus leurs ressources. Les gens, dans cette situation, entendent fréquemment l'appel du Christ au pardon comme étant un devoir insupportable. Mais, voyez-vous, Christ désire que cela soit pour eux une découverte de soulagement. Quand on découvre que Dieu a pourvu en Christ au pardon des croyants, non seulement on est soulagé de la culpabilité du passé qui vous ronge, mais encore, on reçoit la délivrance de la culpabilité du présent, Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7. Si nous oublions que nous avons été pardonnés gratuitement, eh bien nous pouvons être tentés de retenir le pardon mutuel. L'apôtre Pierre, il s'est trouvé dans cette position-là. Le Seigneur lui a montré combien il était ridicule pour qui a été pardonné par Dieu de ne pas vouloir pardonner aux autres. Jésus lui a raconté l'histoire d'un serviteur à qui son maître avait remis son énorme dette et qui refusa de remettre à son compagnon une toute petite somme d'argent. C'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 18, versets 32 à 35. La meilleure façon de témoigner l'amour de Dieu, c'est de manifester de l'amour. Veuillez manifester l'amour et montrer qu'on a reçu un plein pardon de Dieu. Ça, c'est de pardonner complètement à d'autres. En recevant le pardon de Dieu, la personne ressent en quelque sorte une libération d'énergie qu'elle utilisait autrefois pour se défendre de sa culpabilité. Cette décharge d'énergie peut ainsi être transmise à d'autres. Voyez-vous, en pardonnant aux autres, une personne les libère de leurs efforts pour se défendre contre elle, et en plus, elle expérimente un regain d'énergie au-dedans d'elle-même. Pour stimuler cette réaction en chaîne qui consiste à libérer des énergies vitales, Christ nous a enseigné, et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne à vous aussi vos fautes. Saint Marc, chapitre 11, verset 25. Le pardon a fait passer Joseph de la prison au palais. C'est pas rien, ça. Considérez encore un peu notre ami Joseph, un saint. Quel merveilleux exemple des possibilités créatives libérées par le pardon. Que serait-il arrivé s'il avait conservé la rancune à ses frères, envers ses frères? Il y avait de quoi. S'il avait cherché à se venger de la femme de Potiphar, qu'il avait terriblement accusée de vouloir la violer, et elle l'avait fait jeter, elle l'avait fait jeter en prison. S'il avait, Joseph, gardé rancune à les chansons qu'il avait tout simplement oublié. Pourtant, il lui avait promis de tout faire pour le libérer. La force destructrice d'une telle animosité, d'un tel ressentiment, cela l'aurait dévoré et il n'aurait jamais pu devenir le premier ministre d'Égypte. Comment Joseph agit-il devant les circonstances adverses qui le confrontaient? Tout simplement, il a refusé de nourrir des reproches. Il a vu qu'il serait traumatisé par la haine qu'il entretiendrait s'il ne voulait pas pardonner. Or, quand ses frères se sont montrés jaloux de lui, rappelez-vous, il leur a pardonné et il a gardé la faveur de son père. Quand par la haine, ils l'ont vendu comme esclave en Égypte, il leur a pardonné. Quand la femme de son maître, furieuse de ce qu'il a refusé ses avances, et quand elle l'a accusé faussement, mensongèrement, de vouloir abuser d'elle, et ainsi l'a fait emprisonner, Joseph a pardonné. Plus tard, il a même eu le courage de tous, à tous les prisonniers qui lui ont fait du tort, de leur pardonner. Et quand l'échanson a retrouvé grâce auprès du pharaon, il l'a oublié. Joseph lui a pardonné. Joseph a réalisé que le pardon était la source de guérison. Il est la médecine qui permet au cœur de rester ouvert à la grâce de Dieu, qui est prometteuse d'un avenir beaucoup meilleur. Il n'y a rien qui puisse guérir les blessures du passé et ouvrir les possibilités de l'avenir plus effectivement qu'une bonne dose de pardon. Alléluia. Chers amis, avant de prier ensemble, le Seigneur m'a donné à vous transmettre quelque chose pour vous donner quelques enseignements et encouragement. Oui, dans la mesure, est-il dit, où votre foi en Jésus-Christ croîtra et se fortifiera, et où votre sphère d'influence s'étendra, vous serez amené à accroître vos demandes. Pourtant, soyez et restez confiants. Aucun de vos réels besoins ne restera insatisfait. Effectivement, vous demanderez des choses de plus en plus importantes, mais vous apprendrez surtout, en même temps, à faire confiance à Jésus-Christ pour les petites choses. Cette confiance, d'ailleurs, elle ira en augmentant dans la mesure où vous verrez se répéter ses interventions puissantes et où son amour s'imposera à vous, où il vous fera toucher du doigt sa tendre sollicitude jusque dans les détails de votre existence quotidienne. Oui, réjouissez-vous donc. Je le répète, réjouissez-vous. Quand il s'agit d'un ami particulièrement cher, un cadeau de choix peut beaucoup pour lui donner la preuve de votre amitié, mais une véritable sollicitude se manifeste mieux encore, dans les petites attentions et les, on peut dire, les prévenances de détails. Délectez-vous donc de l'amour du Seigneur qui est ainsi manifesté envers vous chaque jour. Prions maintenant, si vous voulez bien qu'on prie maintenant ensemble. Ô Dieu, Esprit puissant de vie, répands sur nous tes dons parfaits, de sorte que nous puissions trouver en Christ notre certitude et notre joie. Purifie et sanctifie-nous. Oui, sanctifie-nous par ton Saint-Esprit. Accorde-nous la paix et la joie que le monde ne peut ni donner ni nous enlever. Fais-nous parvenir à nous et à la chrétienté tout entière l'unité de l'Esprit pour que ton Église ici-bas s'étende et se rassemble en un temple vivant et saint où l'on t'adore, ô Dieu, et où l'on te sert, où l'on te serve en esprit et en vérité. Amen. Amen. Merci, chers amis, pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.